signe des temps, Marc Wetzmann.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Cette semaine a vu se multiplier dans la presse les hommages à Charlie Hebdo et dans une moindre mesure à la policière Clarissa Jean-Philippe ainsi qu'aux victimes de l'hypercacheur de Vincennes assassinées le lendemain et le surlendemain du massacre. 5 ans se sont écoulés depuis ces 3 jours des 7, 8 et 9 janvier 2015 qui ont lancé en France la vague de terreur qui allait culminer avec les attentats du 13 novembre puis celui de Nice au mois de juillet suivant faisant plus de 200 morts. Plusieurs livres sortent sur le sujet en ce début d'année, dont celui de Hugo Michalon sur le djihadisme français chez Gallimard, dont nous reparlerons. Mais pour l'instant, alors que se profilent dans 2 mois les élections municipales et que s'ouvrira en mai le procès des complices des auteurs de l'attaque contre Charlie Hebdo, la question qu'on va se poser ici est celle-ci. 5 ans après Charlie, où en est-on en France avec la liberté d'expression et où en est-on dans certaines villes avec le clientélisme politique qui en limite l'exercice ? Pour en parler aujourd'hui avec nous, Bernard Rougier. Bernard Rougier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à la Sorbonne Nouvelle, directeur du Centre des études arabes et orientales. Vous avez publié plusieurs livres, Le djihad au quotidien, Qu'est-ce que le salafisme, L'Égypte en révolution. Et vous sortez en ce moment un livre collectif qui s'appelle Les territoires conquis de l'islamisme, que vous avez dirigé et qui a été rédigé en partie par vous et en partie par certains de vos étudiants.
Absolument.
Julien Durand, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un des étudiants co-auteurs du livre. Vous êtes étudiant en sociologie, vous faites une thèse, vous êtes né à Aubervilliers. Et vous publiez le chapitre sur Aubervilliers dans ce livre sous un pseudonyme,
oui.
Pour des raisons de sécurité.
C'est cela.
Et enfin, Didier Taninx, bonjour.
Bonjour.
On ne vous présente pas, vous êtes un des maîtres du polar français à tonalité résolument politique. C'est votre second roman, Meurtre pour mémoire, qui vous a fait connaître. C'est un livre, comme tous vos livres d'ailleurs, très politique. La toile de fond était le massacre du 17 octobre 61, durant lequel 150 Algériens sont morts tués par la police aux ordres de Maurice Papon à l'époque. Vous avez publié tellement de livres qu'on ne va pas tous les citer, hein, Le géant inachevé, Le bourreau et son double. Vous êtes dans la seconde moitié des années 90, la série des enquêtes de Gabriel Lecouvreur dit Le Poulpe, qui est devenu très célèbre. Et vous êtes également co-auteur de l'album Corvée de bois, réalisé par Tignous, l'un des dessinateurs qui devait tomber sous les balles des frères Kouachi à Charlie Hebdo en janvier 2015. Vous avez aussi été longtemps proche du PC. Vous êtes né et vous avez grandi à Aubervilliers, dans une famille qui oscillait entre les milieux anarchistes et communistes. Et vous allez sortir en février un brûlot, ça s'appelle comme ça quand même, dans la collection Tract chez Gallimard, qui s'appelle Municipal banlieue naufragée, dans lequel vous expliquez pourquoi en fait vous avez dû fuir votre ville, la ville dans laquelle vous avez grandi, Aubervilliers.
C'est exactement ça, oui.
Voilà. Alors j'ai commencé par vous, Bernard Rougier. Les territoires conquis de l'islamisme, le titre fait référence, je suppose, au territoire perdu de la République, de genre le livre collectif.
Oui, ce qui est dénoncé en creux dans le livre Les territoires perdus de la République s'explique en partie, en puissance, en acte, par les réseaux religieux qui vont combler ce manque et qui vont essayer de travailler la population issue de l'immigration pour tenter de lui imposer, au fond, une norme, une conception, une définition de l'islam, et de l'enfermer progressivement dans cette définition.
Alors, le titre fait référence au territoire perdu de la République, qui était le livre collectif et publié, je crois, en 2004, si mes souvenirs sont bons, par Georges Bensoussan. Et la différence, c'est que le livre de Georges Bensoussan était essentiellement un livre de témoignages. Vous, il y a des témoignages, mais il y a aussi une perspective historique.
Oui, il y a une perspective historique, absolument. On essaie de montrer, au fond, les interactions entre les deux rives de la Méditerranée. La manière dont ces réseaux se sont imposés progressivement dans les quartiers, comme on dit, ne se peut pas s'expliquer, à mon sens, sans prendre en compte la vue d'ensemble. Et la révolution salafiste dans le monde musulman, qui a commencé il y a une trentaine d'années et dont on voit les effets chez nous depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, la sortie de la guerre civile en Algérie dans les années 90, qui se conclut par un pacte entre les militaires et les religieux, avec la médiation des grands de l'institution religieuse saoudienne, et qui va en quelque sorte, en échange de la reddition des combattants du GIA, leur donner un contrôle sur l'espace social et religieux de l'Algérie, avec les conséquences que ça peut avoir situation française.
C'est une des choses qui est très neuve, enfin, c'est un des éléments neufs que vous donnez. C'est-à-dire qu'on connaît certaines des causes historiques du développement de l'islamisme, l'Afghanistan, la guerre civile algérienne, bien sûr, dès le début de la guerre civile algérienne, des militants du GIA et du FIS sont venus s'installer en France.
Absolument. Alors ça, c'est une histoire... Vous voyez, il y a, si vous voulez, le fait que des imams salafistes algériens et joué les médiateurs se sont vus accorder une place sur le champ religieux algérien, puis sur le champ religieux français, par voie de conséquence, dans les années 2000. Et il y a une histoire encore plus ancienne, c'est la guerre d'Afghanistan de la fin des années 80, début des années 90. Et là, dans la mouvance djihadiste de l'époque, il y a deux courants. Il y a le courant que nous connaissons, celui de Ben Laden, qui est un courant très politique, qui va essayer, à la fois religieux et politique, et qui va essayer de canaliser la lutte contre les États-Unis, et qui ne va pas chercher à, en quelque sorte, mobiliser sur les conflits religieux internes au monde musulman. Il ne soulève pas, par exemple, la question de l'opposition entre sunnites et chiites. Mmh. Et il y a un autre courant, djihadiste lui aussi, qui s'appuie, j'allais dire, sur l'héritage wahhabite saoudien, qui va essayer de le mobiliser au nom de la pureté de l'islam pour imposer le plus vite possible l'application de la loi religieuse dans leur définition. Ce courant-là va former le GIA. Et ce courant-là avait un camp d'entraînement près de Rost, en Afghanistan, dans les années 90, qui s'appelait le camp de Khaldan. Et vous voyez que ensuite, ces militants vont commettre des massacres en Algérie, et une partie, certains, vont pouvoir aussi accéder en France. Donc on a en quelque sorte ce que j'ai appelé la rencontre de l'histoire et de la géographie. Une histoire récente où ces groupes djihadistes vont raconter leur histoire, leurs exploits, leur expérience de la guerre, avec auréolé d'une expérience en Afghanistan, puis en Algérie. Et puis la géographie, c'est la connexion de ces quartiers grâce au réseau, avec des foyers idéologiques, avec des foyers financiers, qui vont leur permettre, dans le tissu associatif, de prendre progressivement l'hégémonie
en France.
On a constaté quelque chose d'étonnant dans les leçons et dans certaines prédications dans les mosquées. C'est vraiment la copie de prédications qui sont faites au Yémen, en Arabie Saoudite ou à Alger, par des prédicateurs salafistes. C'est dit d'abord en arabe, c'est traduit dans un français, et si bien que la réalité institutionnelle et sociale française se voit en quelque sorte décryptée, décodée, à travers des catégories religieuses d'inspiration salafo-wahhabite, saoudienne ou maghrébine. Cette transposition tout à fait étonnante.
Pour dissiper tout malentendu, on est bien d'accord que vous parlez des territoires conquis, de l'islamisme et pas de l'islam.
C'est encore vraiment important de répéter, c'est une utilisation idéologique de l'islam, c'est un islam idéologique, et qui cherche à enrôler ceux qui ne s'y reconnaissent pas. Par pression, par remarques, par contrôle social, et en ayant progressivement une position hégémonique sur la définition de l'islam. Il y a un texte sur les librairies islamiques qui montre qu'un jeune musulman de 15 ans qui s'interroge sur le contenu de sa religion, s'il va dans une librairie islamique, il trouvera pour l'essentiel des livres salafistes qui seront des livres de prescription sur le juste, l'injuste, l'interdit et l'autorisé. Et il va voir progressivement la société française à travers cette grille binaire de ce qui est haram, de ce qui est interdit ou de ce qui est halal, de ce qui est autorisé.
Alors, un des éléments neufs que vous donnez, c'est vous montrer la rencontre, en quelque sorte, entre les groupes islamistes d'une part et les régimes liberticides, en fait. Vous expliquez qu'une des raisons du développement de l'islamisme tient à la centralisation des États, en fait, la disparition des traditions locales.
Ça, après les indépendances. C'est absolument fondamental dans la perspective historique. C'est qu'au fond, c'est la fin avec les États modernes. Tout le personnel religieux est fonctionnarisé. Dans l'histoire de l'islam, ou dans ce qu'on a appelé l'islam classique, les docteurs de la loi avaient les moyens de leur indépendance, c'est-à-dire qu'ils avaient des biens de main morte dont ils bénéficiaient en quelque sorte et qui leur garantissaient une autonomie économique, et donc ils étaient libres de créer. Avec les États modernes, toute cette fonction, ce personnel religieux devient fonctionnarisé, l'islam devient un islam d'État et laisse ouvert la porte à des opposants, à des dissidents islamistes. Et au fond, les régimes autoritaires, tout comme les islamistes, n'avaient pas du tout d'inconvénient à ce que la société soit islamisée du moment que eux gardent le pouvoir. Et dans les années, dès les années 80, il y a un accord, au fond, que l'affaire Rushdie avait déjà signalé, entre les gouvernements autoritaires et les islamistes, j'allais dire entre les oulémas, les chers, les imams du pouvoir et les islamistes, pour que la population d'origine maghrébine et d'origine arabe en Europe ne devienne pas, au fond, une population libérale qui peut démocratiser le sud de la Méditerranée.
Et c'est l'enjeu, c'est-à-dire qui contrôle les âmes des musulmans en Europe.
Exactement.
Et c'est là qu'on débouche sur les questions de censure. C'est-à-dire que, comme vous le dites, l'affaire Salman Rushdie en 89 a été le début. Vous revenez sur Charlie Hebdo, mais non pas sur l'attentat, mais sur le procès. L'affaire née de la publication des caricatures par le supplément danois Jylland Posten le 30 septembre 2005 en réponse à l'assassinat de Théo Van Gogh. Et vous racontez que la campagne, qui sera relayée par des islamistes égyptiens, la campagne contre les caricatures,
absolument,
en fait, a été construite par un cheikh salafiste d'origine libanaise, Raed Al-Hilahel,
que vous avez interviewé. Absolument. Raed Al-Hilahel,
oui,
qui est un cheikh du nord Liban, salafiste, qui a une histoire très singulière. Je vais essayer de la faire très vite pour ne pas être trop long. Il était sur le point d'être arrêté par l'armée syrienne lorsque l'armée syrienne est rentrée à Tripoli au nord Liban en 1986. Il a obtenu l'asile politique grâce au consulat du Danemark. Son fils handicapé a été pris en charge par l'État danois. Il a donc bénéficié des dispositions de l'État-providence et il a constitué le scandale des caricatures en prenant le Jylland Posten, en rajoutant éventuellement des choses encore plus choquantes par des montages photos, le prophète avec un porc. Et donc, il a envoyé ces dossiers par fax à l'université d'Al-Azhar en Égypte, à l'université d'Islamabad au Pakistan et à des gouvernements musulmans pour construire le scandale. Et il m'a dit, les premières semaines, les premiers mois, ça ne prend pas, on ne réussit pas. Et puis finalement, ça a commencé à prendre. C'est donc, ça lui a pris au moins 6 mois. C'est ce que j'appelle un entrepreneur de scandale, un entrepreneur de cause qui va créer un scandale au détriment de l'État qui lui a sauvé la vie.
Oui, c'est ça, exactement. Et donc, votre livre fait le point sur ce que vous appelez les écosystèmes islamistes qui se sont mis en place en France, localement, dans certaines municipalités, et que ça passe par tout le développement d'une culture locale, en fait.
On a essayé de montrer ce que j'ai appelé l'écosystème. Alors, d'après moi, un écosystème islamiste, c'est-à-dire de montrer comment plusieurs sites, plusieurs lieux entrent en résonance. Ça peut être évidemment la mosquée, la sandwicherie halal. À côté, parfois, on utilise le compte de la sandwicherie halal pour régler la zakat, l'aumône légale à la sortie de la mosquée le vendredi, la salle de sport, le terrain de foot où l'entraîneur va donner quasiment un cours de théologie après le match, ou match qui sera interrompu par la prière. Bref, il y a un écosystème qui se constitue et où la norme, au fond, circule par capillarité, par imitation. Et à partir du moment où on a des situations où fermé socialement, où il n'y a plus d'ascension sociale, au fond, vous avez un enfermement, c'est-à-dire la résidence, le lieu de culte, le lieu de loisir, vont devenir le même espace. Mmh. Et donc, dans ces espaces-là, il est très difficile d'en sortir et la norme va, en quelque sorte, se voir être une norme objective par effet de contrôle, d'imitation et d'impossibilité de voir autre chose. C'est à peu près ça, le fonctionnement de l'écosystème. C'est un champ de force qui assure une socialisation univoque dont on ne peut pas sortir. Et si quelqu'un veut trouver une autre définition de l'islam, il aura du mal. S'il s'interroge sur l'islam, il va regarder Google, il va trouver une référence salafiste omniprésente. S'il va écouter les leçons, il va retrouver aussi des références à l'islamisme. S'il va à la librairie islamique, il va retrouver à nouveau des références. Et s'il retourne au bled, il y a une chance sur deux pour que le bled soit déjà lui-même islamisé. Donc il y a, en quelque sorte, une confirmation de la norme par les différentes sources d'autorité locales qui seront consultées par l'intéressé. Voilà la situation, d'après moi, assez préoccupante qu'on a pu observer dans ce travail.
Alors, votre livre a fait couler déjà beaucoup d'encre. Il y a beaucoup d'opposition, puisqu'on parle de censure en 5e anniversaire de Charlie Hebdo. Julien Durand, vous êtes un des co-auteurs du livre, et vous devez, peut-être pas vous cacher, mais enfin, en tout cas, vous devez faire preuve d'une certaine prudence quand vous écrivez ce que vous écrivez, en l'occurrence sur la ville d'Aubervilliers.
Oui, je dois faire preuve de prudence, puisque j'habite dans cette ville, donc...
Pourquoi ?
Parce que les gens peuvent me reconnaître et je pourrais être accusé d'être un traître. Mmh, mmh. Donc il y a déjà eu des menaces de mort contre des gens qui sont sortis du groupe. Mmh. Donc je préfère me mettre en retrait, on va dire, pour des raisons de sécurité.
Mmh. Vous n'êtes pas le seul des co-auteurs du livre à devoir vous mettre en retrait. Enfin, en tout cas, devoir.
Non, je pense qu'on est plusieurs. Tout le monde est mis en retrait dans le livre.
Alors, Aubervilliers est un des emblèmes de l'écosystème islamiste dans le livre. Didier Deninck, c'est aussi la ville dont une des villes dans votre pamphlet qui sort le mois prochain, dont vous faites un portrait ravageur. Hein.
C'est le fait d'y avoir vécu pratiquement 70 ans et d'avoir vu les choses et ce système d'enfermement se mettre en place, et ce que produit cet enfermement. Donc ce que je raconte, c'est pas du tout une volonté de brûlot, c'est une volonté de réalisme, comme de ne pas se mentir et d'essayer d'identifier tous les dysfonctionnements et toutes les complicités qui permettent que l'enfermement se radicalise.
Alors vous dites, il y a un axe, vous parlez aussi de censure, hein. Vous dites, on retire mes livres des rayonnages d'une bibliothèque installée sur les terres identitaires, un responsable culturel prélève l'un de mes romans et découpe à la lame de rasoir les passages qui le contrarient avant de replacer le livre mutilé sur son étagère.
Alors ça, c'était à Orange.
C'était à Orange, d'accord, c'est pas
à Orange, il y a ça, et puis au même moment, c'est il y a quelques années hein, quand même, au même moment, pour des actions politiques que je menais à la Courneuve, ville communiste, on enlevait de la même manière mes livres des rayonnages, l'autorité du maire qui dirigeait la ville. Et puis plus récemment, le cabinet du maire est intervenu à Tremblay en France, hein, je peux dire les endroits comme ça, tout simplement parce que la médiathécaire m'avait invité à venir faire une conférence, et donc il y a eu intervention directe du cabinet du maire pour interdire ma venue. Et à Aubervilliers, dès 2014, mon nom était totalement interdit dans toute la presse municipale, toutes les initiatives où j'étais associé, mon nom devait disparaître. Ça, c'est des gens du service municipal d'information, de propagande municipale, qui me l'ont confié. Donc on est confronté comme ça, les paroles dissidentes et les paroles qui essayent de déchirer le voile du réel, comme ça, sont mises à l'encan, quoi.
Alors vous êtes, je rappelle que vous avez grandi à Aubervilliers. Hein.
Vous y avez toujours vécu.
Et vous
de la crèche au lycée technique.
Vous commencez votre brûlot en disant: il m'aura pourtant fallu toute une existence pour quitter ces lieux, prendre mes distances avec la peau de chagrin qui est devenue cette partie de la banlieue rouge. Je ne déménage pas, je fuis.
Oui, ce sont les conséquences de 2014. Pour moi, le basculement, ce sont les élections municipales de 2014. La ville d'Aubervilliers, qui avait toujours été dirigée par les communistes depuis la libération, était tombée aux mains, comme ils disent, d'un socialiste ancien du PSU, Jacques Salvatore. Et ensuite, il y a eu une volonté de reconquête. Et cette volonté de reconquête s'est faite avec quelqu'un qui arrivait d'une ville qui avait totalement adopté toutes ces méthodes véritablement mafieuses et qui a organisé la reconquête de la ville. Voilà. En s'appuyant pour une part sur la puissance du vote musulman, identifié comme tel, et puis sur des voyous, directement des dealers de hashish et de cocaïne, en leur promettant des emplois, en leur promettant de pouvoir diriger une partie de la municipalité, ce qui s'est fait par la suite, dès l'instant où ils ont gagné la municipalité, pour une part par ces moyens, les promesses ont été tenues et on s'est retrouvé avec des gens comme ça, qui étaient des gens de sac et de corde, qui ont été propulsés sans diplôme, sans concours, à l'intérieur de l'appareil municipal.
Alors, Julien Durand et Bernard Rougier, vous revenez dans le livre très en détail sur cette campagne de 2014. Oui. Julien Durand, vous voyez aussi la campagne de 2014 comme un élément déclencheur. Oui. Ce que vous écrivez est très précis. Hein. La ville était tenue jusqu'à présent par qui ? au départ,
Il y a eu Pascal Baudet qui a été maire jusqu'en 2008.
Oui, mais avant
Jacques Ralit,
voilà. qui était donc communiste, oui. et dont Jacques Baudet, et dont Pascal Baudet est le gendre. Oui. Voilà, donc c'est une sorte de continuité.
C'est cela.
Et de la campagne de 2014 qui a installé Pascal Baudet. C'est donc fait dans certaines conditions. Vous écrivez que un des colistiers de Baudet, du nom de Sofiane Karoumi, a envoyé des SMS, notamment sur Najat Vallaud-Belkacem, venu soutenir le maire sortant, en disant « Avis à tous les musulmans, Najat a soutenu le mariage gay, la loi sur les mamans voilées qui accompagnent leurs enfants aux sorties scolaires, musulmans égale anti-PS, vote sanction. »
C'est ça.
Et je rappelle que c'est une liste de gauche qui fait ça.
Une liste de gauche, oui.
Anti-mariage gay.
C'est la liste Pascal Baudet.
Voilà. Voilà. Vous dites que ce SMS, il y en a beaucoup d'autres, mais ce SMS est envoyé à tous les électeurs d'origine arabe, ou en tout cas dans les noms.
Dont le patronyme sonne arabe.
C'est pas la seule ville, hein. On a trouvé des choses comme ça dans d'autres municipalités comme à Bobigny, par exemple, à Vaux-en-Velin, où moi quand j'y suis allé, après les élections municipales, il y avait encore sur les murs PS égale sioniste. L'idée étant que le PS était infiltré par des sionistes ultra-laïques qui voulaient transformer les petits garçons musulmans en petites filles. Donc cette campagne de 2014 a été un peu partout en France le grand moment. Il y a eu un tournant à ce moment-là.
Parce qu'il y avait la théorie du genre qui était dénoncée par Bernard des prédicateurs dans les leçons et les mosquées. Et que l'école progressivement a été décrite, l'école républicaine a été décrite, comme une école mélangeant, voulant réduire les identités sexuelles, poussant à l'indifférenciation entre les garçons et les filles. Et donc, ce discours a pris très manifestement auprès d'une partie de la population comme étant la vérité sur l'école. Et donc, c'est ce travail de resocialisation qui est mené à l'échelle locale, qui crée des représentations qui sont ensuite exploitées lors des élections. Mais s'il n'y avait pas, j'allais dire, ce travail idéologique préparatoire, ce type de manipulation électorale serait moins facile à faire. La dénonciation de l'école se traduit aujourd'hui par le développement d'écoles confessionnelles hors contrat, par le développement d'écoles à distance sous couvert d'écoles Montessori, avec des méthodes pédagogiques alternatives, mais qui sont en réalité d'autres offres d'éducation qui ne se veulent pas relevant de l'éducation nationale. Au fond, on a un discours islamiste qui disqualifie les lieux de la République. Et c'est les lieux de formation du citoyen, le lycée, l'école. Et le plus grave dans ce que décrit Julien et dans ce que décrit Didier Deninx, c'est que le système politique local rentre en jeu. C'est que ces acteurs finissent par avoir des ressources publiques en rentrant dans le système politique où des élus pour un plat de lentilles électorales leur donnent des positions sur la jeunesse, sur les sports, sur l'attribution du marché, parfois sur le logement. Et là, on a une fermeture, c'est-à-dire que progressivement, les habitants comprennent qu'il faut passer par le réseau religieux, le tissu associatif, pour obtenir une ressource à la mairie. Et là, le clientélisme est abouti, c'est-à-dire qu'on ne peut pas en sortir. C'est très difficile d'en sortir.
Oui, une précision, par exemple, la personne qui a fait cette campagne homophobe en 2014 est devenue maire adjoint. Oui. Et là, pendant qu'il était maire adjoint, il a été le seul à refuser de faire les mariages homosexuels. Il était sur la liste communiste. Et aujourd'hui, pour 2020, il se présente sur une liste qui va être soutenue par la France insoumise. On en est véritablement là, c'est-à-dire la France insoumise dirigée par Jean-Luc Mélenchon, qui ne faisait pas mystère de sa libre pensée, d'un seul coup soutient au Béavilliers quelqu'un qui a ce parcours. Mm-hmm. Donc les catégories politiques, ne veulent plus rien dire devant cette force qu'a acquis le vote communautaire.
Le vote communautaire, oui, absolument. Julien Durand, vous citez un autre élu Front de Gauche, d'ailleurs, Fethi Chouder, délégué à la jeunesse et à la modernisation des services publics, qui dit en conseil municipal s'exprimer non pas en tant que citoyen, mais en tant que musulman.
Oui, c'était à l'occasion de la signature des baux amphiotiques pour la mosquée. L'organisation de l'association des musulmans d'Aubervilliers lui a confié une lettre qu'il a lue, on va dire, en pendant le conseil municipal, et il a dit aujourd'hui je ne m'adresse en tant que musulman et pas en tant que citoyen. Et personne n'a rien dit.
Et il est aussi intervenu sur une télé de YouTube qui s'appelle Meta TV, donc oui. Vous dites qu'elle est proche d'Alain Soral.
C'est ça, oui.
Et incroyablement, à la question d'une possible alliance entre le Front de Gauche et le Front National, la seule raison pour laquelle Fethi Chaouderci est opposé, c'est la question de l'immigration. Il a dit, il est hors de question que nous amenions les jeunes à devoir changer leurs coutumes culturelles pour s'intégrer. Oui, oui. C'est la seule raison.
C'est la seule raison. Mais vous avez aujourd'hui beaucoup de gens qui, à Aubervilliers, votent Front National, ou RN. Oui. Aux dernières élections, RN a fait des bons scores.
Oui. France Culture, Signe des Temps, Marc Wetzmann. Well, I'm in pain, but I won't admit it. No, I'm too proud, I wanna hide it. Cause I'm afraid of the consequences. Still wanna dance, but with a sequence. Yeah, I'm aware that I may look different. No, who needs a looks when you know the tricks? People stare, they're scared I'll touch them and spread the virus of the burnt out plane. My baby left me.
Didier Denax, votre livre, comment on appelle ça, un pamphlet? C'est plus un pamphlet qu'un livre.
C'est un
récit de vie, oui. Municipal, banlieue naufragée, donc ne va bien au-delà. C'est pas un livre centré sur l'islamisme. Hein, c'est un livre centré sur l'effondrement de ce que vous appelez l'effondrement éthique, en fait.
C'est vraiment ça, parce que moi j'ai connu la période glorieuse du communisme municipal, puis surtout dans une ville comme Aubervilliers, où quand on fait référence à Aubervilliers, il y a eu des abattoirs il y a longtemps, et ensuite ça a été le théâtre de la commune, c'était la ville de la culture et qui était personnifiée par Jacques Ralit. Et donc il y avait véritablement ça, et moi je suis devenu écrivain, j'étais au lycée technique, je suis devenu écrivain tout simplement parce qu'il y avait ce théâtre, et qu'à l'âge de 14 ans, j'allais voir toutes les pièces, j'ai été voir des dialogues entre Renoir et Godard, et ainsi de suite, et ça a bouleversé ma vie, et ça m'a donné une exigence culturelle qui n'existait pas dans mon milieu, et de voir que cette espèce d'utopie de mariage entre le monde prolétaire et la culture la plus exigeante soit bradée de cette manière, c'est véritablement un crève-cœur. Donc c'est ça que je dis et que j'essaye d'expliquer, c'est la manière dont ces gens ont absolument tout détruit de la manière dont les gens pouvaient vivre au-dessus d'eux dans cette banlieue. Aux élections municipales de 2014, il y a quand même un agent électoral qui était trafiquant de cocaïne et qui avait été condamné pour ça et qui a pris la direction d'un service municipal. Une semaine après, il est arrêté par la police, il menaçait d'égorger un de ses voisins, il était déguisé en guerrier de Daesh. C'était l'agent électoral du Parti communiste à Aubervilliers. C'est invraisemblable. Rien que le fait de le dire, j'ai l'impression d'être dans une de mes fictions de roman noir. Et non pas dans le réel. Il y a un réel comme ça qui s'est détaché de la conscience. C'est quelque chose d'extrêmement violent. Et donc c'est ça que j'ai essayé d'expliquer. Si je suis parti, moi, si j'ai fui, comment ce qui est devenu Aubervilliers, ma fille était partie 2 ans avant, elle venait d'avoir des enfants et tout. C'était pour elle totalement impossible de continuer dans une ville qui était marquée par ça, par cette violence, par cette homophobie, le fait qu'une grande partie des gamins devenus adultes qu'elle connaissait depuis, elle a fait tout son cursus dans l'école républicaine, refusait de lui serrer la main, refusait de l'embrasser, et ainsi de suite. suis, c'est-à-dire la distance qui s'est créée dans ce qu'on appelle cet écosystème. Donc c'est ça qui a fait qu'il y a eu ce départ. Quoi.
Bernard Rougier.
Oui, j'avais plusieurs réflexions sur, à partir du témoignage de Didier Denynx. D'abord, c'est la comparaison étonnante. Didier Denynx s'en va parce qu'il sent une pression autoritaire et il ne se reconnaît plus dans la vie qu'il a connue. Beaucoup de jeunes femmes, de jeunes hommes et surtout de jeunes femmes d'origine maghrébine s'en vont également parce qu'elles veulent avoir une liberté qu'on ne leur accorde pas sur l'habit, etc. Donc il y a une partie des jeunes femmes qui manifestent leur opposition par le départ, mais qui ne peuvent pas le dire localement parce que c'est le prix à payer est trop grand. La deuxième remarque très vite, c'est que une partie de la gauche a failli à sa double mission. La mission d'émancipation culturelle, à laquelle Didier Denynx faisait référence, en mettant à disposition les grands auteurs, les grands textes, comme des instruments d'émancipation, où au fond la promesse culturelle et la promesse politique coïncident dans le projet républicain d'émancipation. Là, c'est une promesse qui n'est plus remplie par une partie de la gauche. Et l'autre promesse, c'est l'intégration des populations immigrées. Ça, c'est la mission historique de la gauche européenne, au fond, d'intégrer des populations persécutées dans leur pays d'origine à un modèle politique de liberté. Et en ne voyant des populations qu'à travers le prisme culturel de leur point de vue, et à mon sens le prisme islamiste en réalité, eux-mêmes enferment les populations dans la manière dont ils les gèrent. Et paradoxalement, cette extrême gauche, cette nouvelle gauche, a un comportement très colonial sur le coup. Parce que les populations sont vues à travers des catégories religieuses et traitées par satisfaction de revendications religieuses au détriment de ceux qui veulent exister autrement. Mmh. Donc là, il y a une réduction et une assignation essentialiste. Voilà, c'est...
Mais Didier Denynx, alors vous citez, vous acharnez pas sur Aubervilliers, hein, vous allez aussi à Saint-Denis dans votre livre, vous ne donnez pas son nom, mais on reconnaît quand même Majid Messaoudène, l'organisateur de la manifestation contre l'islamophobie de novembre dernier, dont vous citez les tweets. Sur les tueries de Toulouse, sur Mohamed Merah, les tweets sur les femmes complètement misogynes, et vous parlez de Saint-Denis et de la présence, l'omniprésence de Tariq Ramadan à Saint-Denis, vous citez des déclarations du maire de Saint-Denis après l'intervention de la police dans la planque des survivants du groupe terroriste du 13 novembre qui sont insensés. Oui, mais où on a l'impression que le maire se méfie de la police, en fait.
Oui, il dit tout simplement quand la police a réduit les assassins du Bataclan et tout, il fait un communiqué où il dit le courage des habitants du centre-ville, il salue le courage des habitants du centre-ville qui n'ont pas cédé à la panique malgré un déploiement colossal des forces de l'ordre. C'est-à-dire que la population du centre-ville de Saint-Denis devait avoir peur de
la police et non des terroristes.
Des policiers, des gens qui risquaient leur vie contre les djihadistes. Et donc je l'ai rencontré, moi, sur cette base-là, j'ai passé 2 heures à discuter avec lui, et je lui ai montré une partie de la production de la ville de Saint-Denis, des choses qu'il a signées. Par exemple, il avait signé un communiqué protestant contre le fait qu'on avait empêché une maire adjointe de la ville d'Argenteuil de venir au conseil municipal voilée, ce qui est contraire normalement à la loi républicaine. Et donc je lui ai montré ça, je lui ai dit comment vous avez pu signer un texte préconisant le port du voile dans le conseil municipal. Il me dit je n'ai jamais signé ça, et pourtant il y avait sa signature. Et donc je me suis aperçu qu'il ne tenait rien de ça. Il a démissionné 15 jours ou 3 semaines après notre entrevue. Et par exemple son adjoint Majid Messaoudène, c'est absolument invraisemblable tout ce que j'ai pu lire sur ses comptes Twitter. Quand il y a l'assassinat des enfants dans la maternelle par Mohamed Merah, comment il fait un tweet en disant ce soir je vais m'apprendre à pleurer, je vais m'apprendre à être sensible à ce qui vient d'arriver. Et donc c'est des choses d'une violence absolument incroyable. L'imam de Drancy, quelqu'un de très courageux qui a essayé de s'opposer à toute cette mise en place sur son territoire, il se moque de lui par une sorte de bande dessinée Dominé, où il le fait parler en petit nègre. Mmh. Et donc là aussi, ce point de vue colonial, il est très 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 fort. Et c'est quelqu'un qui a une importance considérable à Saint-Denis, qui a organisé des dizaines de rencontres avec Tariq Ramadan qui possède un appartement à Saint-Denis, qui vit encore aujourd'hui et qui s'y promène de manière provocatrice et qui va même dans les assemblées protestant contre la violence faite aux femmes.
Il y a une question que je voudrais vous poser, parce qu'au début de votre livre, vous dites avoir une conversation téléphonique avec un ancien maire, ancien sénateur. Je suppose qu'il s'agit, vous ne donnez pas les noms, mais j'imagine qu'il s'agit de Jacques Ralite, et vous lui posez la question de savoir comment on en est arrivé là, en fait. Et il ne répond pas.
Non, il répond pas. C'est-à-dire que je lui donne exactement. Je m'aperçois en 2014 de ce qui est en train de se jouer et de cette alliance absolument invraisemblable entre les voyous, les islamistes et puis les appareils politiques du front de gauche. Et d'un seul coup, c'est tout simplement la manière dont il faut reconquérir cette ville qui est une ville absolument symbole. Mmh. Et donc, il faut absolument tous les moyens doivent être mis en œuvre comme ça. Donc, il n'y a plus aucune morale. Avec Jacques Ralite, on se connaissait depuis des dizaines d'années. Donc, c'est quelqu'un avec lequel j'avais on se tutoyait et ainsi de suite. Donc, on se disait les choses extrêmement franchement. Et là, il était en incapacité de justifier ce qui était en train de se jouer avec son gendre.
On va finir cette émission, mais je voudrais avant vous demander à vous trois, qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire pour aller contre cette tendance?
Il faudrait ringardiser les milieux islamistes, offrir des sociabilités qui ne soient pas dominées par la norme, identifier les personnalités charismatiques qui peuvent redonner du contenu au lien social en dehors de l'influence du religieux et de l'islamisme, plus facile à dire qu'à faire. Mais il faut absolument relancer des activités culturelles, du lien collectif avec des gens issus des quartiers et ne voulant pas être réduits à l'image qu'on en donne et que les islamistes eux-mêmes cherchent à en donner.
Julien Durand.
Je vous avoue qu'après 3 ans de terrain, je pense que c'est assez difficile de reprendre la main. Mais je pense qu'il faudrait que les personnes de confession, de tradition ou de culture musulmane sur le terrain, qui sont dissidentes, puissent, on va dire, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, par exemple, de créer des plateformes YouTube où, pour s'exprimer, en fait, il y a d'autres moyens, des alternatives aujourd'hui qui existent.
Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y a une véritable lutte de l'expression en ce moment.
Oui, il y a une lutte d'expression. Ouais. Le problème, c'est qu'il y a une majorité silencieuse qui n'ose rien dire. Et c'est pareil, je travaille à Tremblay, c'est exactement la même chose, et c'est même encore plus, plus prégnant, ça se voit encore mieux.
Et là, on est bien d'accord qu'on ne parle pas de terrorisme, on parle simplement d'une atmosphère.
On parle d'une atmosphère narration. Avec l'idée quand même, si on prend Charlie Hebdo pour faire le lien, les frères Kouachi, ils sont dans l'écosystème de la rue de Tanger, de la mosquée Al-Darwa, la prédication, du réseau Farid Benyettou, ils vont à Aubervilliers. Ils vont dans plusieurs mosquées de l'Île-de-France. Ils sont issus de ce milieu, de cet écosystème, avant d'essayer de partir en Irak. Donc, il y a un lien, paradoxalement, entre cet écosystème et leur existence en tant que terroristes. Et le second, Koulibaly, l'assassin de l'hypercacher et l'assassin de Clarissa Jean-Philippe, il est contaminé, entre guillemets, en prison. Donc on a les deux lieux emblématiques, certains quartiers ou certains lieux dans les quartiers, dans l'écosystème, et la prison qui devient elle-même un écosystème.
Didier Denax.
Il y a déjà quelque chose qui est de l'ordre de l'urgence. C'est par exemple sur Aubervilliers que la personne qui est soutenue par la France insoumise ne le soit plus. Donc c'est une décision à prendre extrêmement, extrêmement rapidement, et ça le faire dans énormément d'endroits comme ça. Et puis il y a aussi un deuxième aspect qui est complémentaire, c'est le fait qu'à Aubervilliers on a dépassé le seuil de 50% de gens sous le seuil de pauvreté. Oui. À Saint-Denis, on est pratiquement entre 45 et 50%. Il y a une misère sociale, il y a un chômage endémique et tout qui favorise aussi ce qui est un accélérateur à la constitution de groupes de défense radicalisés.
Julien Durand. Justement, je voulais réagir par rapport à ce que vient de dire Monsieur Denax. Comment les religieux instrumentalisent cette misère qui existe au niveau local à l'échelle de la Seine-Saint-Denis en général, on va expliquer par exemple aux fidèles que la délinquance n'est pas le fruit de problèmes socio-économiques, elle est liée à l'abandon par les musulmans d'une sunna, donc la sunna c'est une tradition prophétique, en se référant à un hadith dont on doute de l'authenticité, si vous voulez, qui explique que les musulmans doivent se couper les cheveux le septième jour après la naissance. Les parents ont abandonné cette tradition-là, et parce qu'ils ont abandonné cette tradition-là, les diables pénètrent dans le cerveau, squattent le cerveau et deviennent irrécupérables. Voilà ce qui se dit. Et beaucoup de gens n'y croient pas, mais certains y croient. Vous avez des gens qui pleurent dans les mosquées quand ils entendent ça. Et qui vont faire pression par la suite en disant, tu vois, pourquoi on en est là? C'est parce qu'on n'a pas suivi la sunna.
On va s'arrêter ici. Didier Denax, je pense que je vous réinviterai au monde des municipales, parce que dans votre texte, il y a beaucoup plus de choses. Votre texte n'est pas un livre sur l'islamisme, c'est vraiment un livre sur la perte d'une certaine culture, quoi, en fait.
La disparition d'un continent intérieur.
Merci à vous trois.
Merci.
Je voudrais finir cette émission en faisant un rectificatif sur l'émission de la semaine précédente concernant l'émission concernant le livre de Swingora, le consentement. J'ai attribué par erreur à Jean Rista un article publié sur Boulevard Voltaire qui faisait référence à Jean Rista, mais qui n'était pas de lui. Il faut dire que l'article était assez mal présenté. J'avais contacté Jean Rista avant l'émission, et malheureusement il m'a rappeler qu'après la diffusion de l'émission, Jean Rista est l'exécuteur testamentaire d'Aragon et le directeur des Lettres Françaises. Les Lettres Françaises ont effectivement écrit un article de soutien à Gabriel Matzneff, mais après qu'il se soit fait agresser par des militants de l'Action Française à la sortie d'une librairie et avant la sortie du livre de Springora. Dont acte. C'était Signe des Temps, une émission de Marc Wetzmann, assistée de Céline Leclerc, avec à la technique Valentin Bobinet et à la réalisation Véronique Villa. Dans un instant, une histoire particulière.
It's good to know that it don't confess. Just taking what you can get.